Salut, c'est Steven Jambeau de l'Atelier des médias. Pendant 20 minutes à la radio, plus encore si vous préférez m'écouter en podcast, on va parler d'un podcast précisément. Méta de choc se demande pourquoi on pense ce que l'on pense. Dans ses nombreux épisodes, ce podcast explore nombre de croyances, théories complotistes, médecines alternatives, nouvelles spiritualités qui se développent sur Internet, dérives du coaching ou mouvances sectaires comme les témoins de Jéhovah. Méta de choc est sous forme d'entretiens, souvent fleuves, avec des experts ou des personnes qui témoignent. Elles ont parfois été des victimes, parfois elles sont ou ont été membres influents de ces croyances.
Avant d'aller à ce séminaire, j'étais outrageusement confiant dans ma capacité à connaître suffisamment les procédés manipulatoires, les tentatives d'embrigadement pour me laisser prendre.
Bonjour Elisabeth Faïti.
Bonjour Steven.
Méta de choc, c'est vous. Et une de vos ambitions de départ, c'était de vulgariser une notion. Enfin, j'ai l'impression que c'est un petit peu ça, de vulgariser une notion, la métacognition. Expliquez-moi ce que c'est.
Alors oui, effectivement, la métacognition, c'est la cognition de la cognition, c'est-à-dire la réflexion sur nos propres pensées. Et c'est quelque chose que, effectivement, j'avais envie de diffuser au plus grand nombre parce que il me semble que c'est important de se demander pourquoi on pense ce qu'on pense. On a l'impression que c'est évident, on se pose même pas la question de savoir ce qu'on pense ou pourquoi on le pense. Et au bout du compte, quand on commence à être attentif, à observer la manière dont on pense et pourquoi on pense ce qu'on pense, bah quelquefois on tombe des nues et on réalise d'où ça vient, ou alors on réalise tout simplement ce à quoi on pense.
Vous vous positionnez dans la veine des podcasts dits de connaissance. Vous n'avez pas peur de dire à vos auditeurs d'ailleurs d'être attentifs en écoutant vos podcasts. Vous leur conseillez même parfois de se munir d'un carnet et d'un crayon pour prendre note.
Oui, oui. Alors ça m'arrive assez peu souvent parce que j'évite de donner de faire des injonctions et de donner des indications trop précises à mes auditeurs parce que mon but, c'est plutôt que chacun fasse ce qu'il veut de ce contenu. Mais c'est vrai qu'il y a vraiment un objectif éducatif très clairement avec mon podcast. Alors de la vulgarisation, comme vous l'avez dit, c'est-à-dire que l'idée est de transmettre des informations, des connaissances qu'on a aujourd'hui en notre possession, donc notamment les connaissances scientifiques, mais c'est beaucoup, beaucoup au service de l'auto-éducation des auditeurs à la réflexion sur leurs propres pensées. Donc, ça m'est arrivé effectivement dans la dernière émission sur le coaching, où il y avait énormément d'informations qui peuvent être utiles et qui sont des connaissances qu'on n'a pas. On a beaucoup parlé des techniques de manipulation et souvent on n'a pas connaissance de ces techniques. Elles ont des noms, elles ont aussi bien sûr des explications et je pense que c'est utile d'en avoir connaissance.
C'est aussi important que l'auditeur parfois ne soit pas totalement passif, mais aussi qu'il soit actif d'une certaine façon en prenant des notes.
Alors, en fait, moi, comme vous le disiez, quelquefois, ce sont des interviews fleuves. Et c'est vrai que mon format classique, c'est une heure plus, quelquefois, c'est-à-dire plusieurs fois une heure. Et j'ai des séries qui font 6 fois 1 heure avec un même intervenant, vraiment choisi. Il n'y a pas de débat sur Méta de choc. Et effectivement, ce format nécessite déjà, en tant que tel, une sacrée attention de la part de l'auditeur. Et on est bien loin des petites capsules de 2 minutes ou de 10 minutes. Clairement, de toute façon, ça demande de l'attention. Et ensuite, si la personne s'y intéresse vraiment, elle va cultiver cette attention. Elle va, pourquoi pas prendre des notes? C'est pas forcément le cas et c'est pas forcément le but. Mais en tout cas, moi, mon but, c'est de cultiver une attention qu'on a tendance à perdre avec cette immédiateté, en fait. Et puis ce harcèlement, j'allais dire, permanent, des informations qui sont bombardées en permanence sur nos téléphones, sur notre ordinateur, à la télévision, etc. Donc là, le rythme est un rythme de conversation relativement paisible, on va dire, relativement sobre. Il n'y a pas beaucoup d'ajouts. C'est un flux de paroles où on a l'impression d'écouter une conversation, d'être présent auprès de deux personnes qui conversent.
Et effectivement, qui se tutoient d'ailleurs.
Alors, qui se tutoie ou qui se vouvoie? En fait, on me demande quelquefois, mais pourquoi vous voyez certaines personnes et pourquoi vous en tutoyez d'autres? Tout simplement parce que je les connais ou je ne les connais pas. Ou tout simplement parce que la personne que j'interviewe préfère qu'on se tutoie. Et donc, voilà. Donc, c'est relativement direct. Et là encore aussi, c'est parce que j'ai envie que les choses elles soient relativement sincères et clair. C'est vrai qu'à la radio, tout le monde se voit, par exemple, alors que les gens en coulisses peuvent se connaître. Là, en l'occurrence, ça respecte le réel.
Votre promesse, votre ambition, c'est de respecter le réel, c'est de montrer de l'intérieur les processus mentaux, les mécanismes, très souvent, pour mieux les déconstruire.
Oui, en fait, déjà, le simple fait d'avoir conscience de nos mécanismes mentaux, c'est quelque chose qui va nous permettent d'avoir une attention accrue au quotidien, en fait, sur ce qui peut se passer dans notre tête. Et puis, c'est aussi pour déjouer, pour éviter certaines erreurs et donc certaines souffrances. Et c'est vrai que vous le disiez, moi, je m'intéresse beaucoup aux croyances et aux croyants et à la raison pour laquelle ils peuvent croire et trouver un intérêt à une croyance, puis peut-être en sortir. Donc, j'interviewe pas mal de déconvertis. Et le fait de comprendre les mécanismes de la croyance et les mécanismes de nos processus de pensée nous permettent aussi de questionner notre manière de penser. Si on n'a pas connaissance de ces mécanismes, de ces techniques quelquefois de manipulation ou d'endoctrinement, eh bien on a moins de capacité, moins de possibilité de questionner ces croyances qui font partie de notre quotidien, qui font partie de nos modes de pensée normaux, on va dire, et qu'on ne questionne plus du coup.
Aujourd'hui, lorsqu'on a une vie spirituelle en lien avec la loi de l'attraction, les énergies ou l'amour inconditionnel, on a le sentiment d'une expérience singulière et authentique, indépendante de tout dogme, d'une recherche pure de connexion entre soi et l'univers. Cette spiritualité appartient pourtant à un courant de pensée né à la fin du 19e siècle, l'ésotérisme New Age. Je vais tenter ici de retracer la généalogie complexe de ce qui s'avère être une véritable idéologie.
Méta de choc. Vous-même, votre parcours a été déterminant dans votre démarche pour créer ce podcast Méta de choc. Vous avez suivi pendant 15 ans les dogmes de l'idéologie New Age. Vous avez longuement raconté ça dans un entretien à Ouzbek Erika, que j'invite les auditeurs à lire. Vous-même, donc, vous êtes une déconvertie et ce podcast, ça fait partie de votre démarche et c'est une façon de continuer votre chemin hors de cette mouvance.
Alors non, je dirais pas ça parce que je considère aujourd'hui que j'en suis vraiment sortie et que c'est pas à visée thérapeutique qu'aujourd'hui je parle de métacognition. En revanche, ce qui s'est passé, c'est que quand je suis sortie de ces croyance en ayant moi-même pris conscience que ça en était, parce que je ne savais pas que j'étais dans une croyance. Et souvent, ce que vous avez nommé le New Age, tout à fait justement, pour les auditeurs, on peut expliquer, c'est en réalité la spiritualité contemporaine telle qu'on la connaît, ce qu'on appelle l'ésotérisme aussi, et dont on voit énormément de livres en librairie. Donc toutes les choses de développement personnel, toutes les choses qui sont liées à la loi de l'attraction, à la pensée positive, l'univers est amour, et puis d'autres croyances comme les enfants indigos, les reptiliens, les Illuminati, etc. Tout ça, ça fait partie assez largement de ce qu'on peut appeler effectivement le New Age. Et j'en suis sortie en comprenant que c'était une croyance parce que pour moi, parce que tout simplement c'était véhiculé comme ça dans le milieu, je pensais que c'était prouvé. Je pensais que, je ne sais pas, moi par exemple, la loi de l'attraction était prouvée par la physique quantique ou par les neurosciences parce que c'est présenté comme tel. En réalité, ce n'est pas le cas et c'est bien une croyance, et déjà de savoir que c'est une croyance, ensuite de comprendre les mécanismes mentaux, les effets cognitifs que ça avait sur moi, et ensuite pouvoir faire un choix, voilà, autonome, de savoir si je voulais poursuivre cette croyance, mais en connaissance de cause. Bon, en l'occurrence, j'ai abandonné cette croyance, mais moi, ce qui m'a intéressé du coup, c'était de partager ce goût nouveau pour la métacognition et la pensée critique appliqué à soi, le doute méthodique, et donc c'est ce que je fais avec MetaChoc.
L'idée, c'est aussi peut-être d'essayer de piquer la curiosité de certaines personnes qui seraient dans ces mouvances et dans ces croyances habituellement pour les aider peut-être à en sortir.
Alors, mon but n'est pas de les aider à en sortir. Les gens sont libres d'avoir leurs propres croyances et d'y adhérer s'ils le souhaitent. Moi, ce qui m'intéresse, c'est effectivement de piquer la curiosité, parce que la curiosité est fondamentale pour la métacognition. C'est-à-dire qu'il s'agit avant toute chose d'être curieux, de se connaître et de savoir comment on pense et pourquoi on pense ce qu'on pense. Et ensuite, en connaissance de cause, encore une fois, de décider, ben voilà, j'ai envie de poursuivre cette croyance en sachant ce qu'elle est, en connaissant réellement ces dogmes, en sachant que c'est une croyance. Et il m'est arrivé, et j'étais vraiment très contente de ça, que des personnes croyantes, par exemple, j'ai fait une émission sur la géobiologie de l'habitat, qui consiste à traiter, entre guillemets, les maisons, les habitats ou les bureaux, par rapport aux énergies vibratoires. Hein. Donc les énergies vibratoires, ça fait partie des croyances, on va dire, fondamentales du New Age et de l'ésotérisme, de la spiritualité ésotérique. Et des personnes et même des administrateurs de pages Facebook de la géobiologie de l'habitat m'ont contacté en disant « Écoutez, j'ai trouvé votre émission vraiment très intéressante. Ça correspond effectivement bien à notre croyance. Mais sachez que, quoi qu'il en soit, moi, c'est vraiment quelque chose d'important dans ma vie. Je pratique la géobiologie. Je considère que ça a des bienfaits pour moi et pour mes clients potentiellement. Et donc, j'y crois. Parce que c'est vrai qu'il faut dire aussi que l'expérience personnelle, souvent, prime. Hein, quand on est dans la croyance, on a souvent de très bonnes raisons d'y croire, puisqu'on a vécu des expériences personnelles. Et ça nous semble être une preuve. Alors, c'est aussi quelque chose que j'essaye de relativiser ou de mettre en perspective dans mes émissions, c'est que l'expérience personnelle, même si, oui, j'ai vécu, et moi-même, par exemple, j'ai senti les énergies dans mes mains, j'ai eu la sensation de pouvoir guérir des gens par les énergies, etc., par des soins énergétiques, eh bien, ce n'est pas une preuve. En réalité, il y a des moyens beaucoup plus, on va dire, rigoureux de tester une pratique et de savoir si elle fonctionne, et notamment par la méthodologie scientifique qui consiste à prendre d'abord un échantillon très large de cas et ensuite de travailler avec les statistiques pour voir s'il y a eu un effet ou pas significatif et non pas dû au hasard, par exemple. Voilà, mais en tout cas, moi, j'étais satisfaite de voir que des personnes croyantes pouvaient être intéressés d'écouter mon émission et poursuivre leurs croyances, mais en connaissance de cause.
Mais vous diffusez le plus largement possible une stratégie d'hyper-distribution. Vous êtes disponible sur toutes les plateformes.
Ah oui, absolument, oui, mon but. Alors, au départ, je ne considère pas que tout le monde va être intéressé par ça, parce que la métacognition, personne ne connaît. Donc, moi, au départ, quand j'ai commencé il y a 3 ans, je considérais que c'était plutôt un podcast de niche, quoi. Et puis, le succès que le podcast rencontre aujourd'hui, j'en suis étonnée et très contente. Mais effectivement, je diffuse le plus largement possible. Et après, on voit qui ça intéresse.
Vous écoutez toujours l'atelier des médias de RFI, je suis avec Elisabeth Feiti du podcast Méta de choc. Dans votre podcast, Elisabeth, vous interviewez des experts, parfois des experts en neurosciences, en psychologie. Est-ce aussi pour contrer cette passion française des sciences qui n'en sont pas, comme l'ésotérisme, éduquer à la pensée critique, c'est aussi ça, c'est-à-dire de faire entendre des sachants plutôt que des gens qui ne le sont pas réellement?
Alors, pour bien comprendre la manière dont l'esprit humain fonctionne, il y a deux choses importantes, et c'est ce que j'essaie d'avoir dans mes émissions. Il y a d'un côté les connaissances, effectivement, l'état des connaissances scientifiques. Donc, effectivement, je fais appel à des sociologues, à des philosophes, à des psychologues, à des neuroscientifiques, etc., etc. Parce qu'il est important et intéressant, et je pense que tout le monde en est curieux en réalité, de savoir ce que l'on sait a priori aujourd'hui. Donc ça, je pense que c'est important parce que ça permet de poser quelques limites. Et ensuite, le deuxième aspect que je développe aussi, c'est donc les témoignages. Et là, ça permet de renvoyer l'auditeur à la propre expertise qu'il peut avoir sur ses modes de pensée personnels. Donc au-delà des connaissances générales qu'on peut avoir sur l'humain, quelle est son expérience à lui ou à elle? Quelle est sa manière de penser? Comment elle perçoit ses croyances? Et quelles sont les conséquences de ses croyances dans sa propre vie?
On va justement écouter Bertrand, qui est un ancien témoin de Jéhovah.
Depuis ma toute petite enfance, j'ai été élevé avec cette idée qu'il y a deux camps. Le camp du bien, qui est celui des témoins de Jéhovah, le camp du mal, qui est celui du monde, décrit comme étant des gens vautrés dans un bourbier de débauche, toujours en citant un verset biblique. Tandis que les témoins de Jéhovah, eux, sont le peuple pur. Il y a un tel vertige existentiel à l'idée qu'on pourrait quitter le mouvement, qu'on censure les idées. Et plus le doute est là, et plus vous vous auto-censurez, c'est extrêmement violent, la tension interne que ça peut créer chez vous. Parce que le doute, il est là en permanence.
Elisabeth Feiti, on a entendu donc Bertrand qui a grandi au sein des témoins de Jéhovah, parce que ses parents étaient témoins de Jéhovah, qui a même eu des responsabilités en France au sein de ce mouvement, et qui nous raconte sa vie, l'idéologie, les dogmes, le comportement qu'il devait avoir au quotidien, les choses à respecter, etc., les codes de ce système-là. Ce sont 5 épisodes d'une heure qui s'écoutent assez facilement, même si, bon, évidemment, il y a quelques longueurs. Pourquoi décider de donner 5 fois 1 heure à ce sujet-là?
Je crois que les chemins de notre pensée sont assez complexes. Et quand on veut comprendre comment on pense, et en particulier dans une pensée sectaire, dans une pensée d'endoctrinement dès l'enfance, et quand on veut comprendre comment on peut se défaire d'un tel mode de pensée extrêmement prégnant, eh bien, il faut prendre le temps. Il faut prendre le temps de comprendre qui est la personne qu'on a en face de soi, donc connaître ce Bertrand, hein, connaître cette personne. Et c'est vrai que le podcast permet cette intimité aussi, d'avoir la sensation d'entrer dans l'intimité de la personne, dans son esprit. Et puis, il faut comprendre son histoire. Il est resté 30 ans dans les Témoins de Jéhovah, 35 ans. Donc, qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie? Quels ont été les moments clés de son endoctrinement, de ses questionnements? Pourquoi il n'a pas quitté les Témoins de Jéhovah à des moments où il avait des doutes, à des moments où c'était de la souffrance pour lui? Et qu'est-ce qui a fait qu'au bout d'un moment, alors que la plupart des gens ne le font pas, il est sorti d'une secte?
Vous le connaissiez avant de l'interviewer, Bertrand, je crois, non? Vous le tutoyez, en tout cas.
Alors, je le tutoie parce qu'il m'a tutoyé. Je ne le connaissais pas particulièrement. Mais c'est vrai qu'il est, il était déjà intervenu dans la sphère sceptique, c'est-à-dire qu'il y a des vulgarisateurs sceptiques, il y a voilà, d'autres personnes qui, comme moi, s'interrogent sur nos croyances et sur notre manière de penser. Et du coup, voilà, spontanément, il m'a tutoyé, mais je ne le connaissais pas avant de l'avoir rencontré.
J'aimerais maintenant qu'on parle du modèle économique de Méta de Choc. Vous refusez catégoriquement la publicité. C'est à la fois un défi, mais aussi une conviction.
Oui, alors c'est effectivement une conviction bon, tout à fait personnelle. Moi, je déteste la pub, j'ai horreur de ça. J'ai des ad-bloqueurs dès que je peux. Mais il y a un autre aspect, bien entendu, c'est que quand on réfléchit à la manière de penser, eh ben, on se rend compte assez rapidement que la publicité, c'est quelque chose qui nous conditionne, qui nous endoctrine, qui nous fait agir de certaines manières et de manière très efficace. Parce que quand on voit les budgets débloqués par les agences publicitaires, par les marques, eh ben, on voit que s'ils dépensent autant, c'est bien parce qu'ils ont énormément de bénéfices à payer aussi cher. La deuxième chose, c'est aussi que... concrètement, la publicité nous empêche de réfléchir, c'est-à-dire qu'au moment où on est dans la publicité, non seulement on perd son temps, hein, on offre son temps, et ça a été formulé de manière tout à fait laconique maintes fois, à des marques et à de la consommation, on passe à l'acte. Et puis, effectivement, c'est un sacré engagement. Ça occasionne quelques frustrations parce que, vu l'audience que j'ai actuellement, je pourrais gagner énormément d'argent avec la publicité, à titre personnel, mais aussi, bien entendu, en termes de moyens.
Vous avez fait un petit calcul, d'ailleurs, sur le site l'ADN, où vous dites que cela pourrait vous la publicité de votre podcast pourrait vous rapporter de 12 à 18 000 euros par mois, en prenant le coût pour 1000 actuel des audiences de podcast. Mais vous refusez à cela.
Oui, mais en fait, c'est beaucoup plus aujourd'hui parce que quand j'ai fait ce calcul, j'étais à 140 000, j'étais à 120 ou 140 000 écoutes par mois et là je suis à 210 000. Donc en réalité aujourd'hui je pourrais toucher entre 20 et je sais pas 30 000 euros, un truc comme ça. Et aujourd'hui donc je fonctionne sur le don, ce qui évidemment n'a aucune commune mesure en termes d'entrée d'argent puisque ce sont les auditeurs qui apprécient ces contenus, qui veulent que Méta de Choc continue et ça fait 3 ans que ça existe et je suis pugnace. Mais aujourd'hui, je récolte, alors c'est toujours croissant, mais je récolte à l'heure actuelle 2400, 2500 euros par mois.
Sur donc, des plateformes comme Tipeee, Utip, Patreon, LiberaPay,
oui,
PayPal,
fait,
etc.
Tout à fait. Patreon, ce sont des plateformes qui permettent à chacun de donner ce qu'il veut, comme il veut. C'est-à-dire ça peut être de manière mensuelle ou ponctuelle. Et suivant ses modalités propres, donc vous avez effectivement en fonction de la plateforme des avantages, voilà.
Vous faites aussi appel eh bien, à votre communauté énorme. On parlait de vos auditeurs. Vous êtes à plus de 2 millions d'écoutes au total maintenant de votre podcast. Et vous le disiez dernièrement, le mois dernier, plus de 200 000 écoutes dans le mois, ce qui est énorme. Et bien, il y a dans tout cela une communauté dont certains sont plus fidèles que d'autres et qui même vous ont proposé leurs services et vous bénéficiez d'eux bénévolement.
Absolument, oui. Oui, c'est très étonnant. Moi, j'ai jamais demandé vraiment d'aide. J'ai juste présenté de manière très transparente depuis le début. Donc déjà, les revenus, depuis le début, ils sont très transparents et chacun sait combien de dons je reçois, mais également les moyens et le travail que ça demande. Alors moi, j'ai une formation de monteuse, je suis productrice, documentariste, etc. Donc le podcast, pour moi, c'est quelque chose qui était accessible en termes techniques et de compétences. Mais en parlant de la manière dont de mon travail, en fait, il y a des gens qui m'ont dit « Ah, mais j'ai vu votre site internet, je pense qu'il peut être amélioré. Si ça vous intéresse, je peux vous aider sur le design, sur la programmation, sur le SEO, etc., pour le référencement sur internet. Ou « Ah, j'ai vu que vous étiez en train de sous-titrer certains épisodes. Moi, je peux vous aider aider aussi, parce que ça m'intéresse de rendre les podcasts accessibles aux sourds et aux malentendants, etc. Et donc, effectivement, de manière ponctuelle ou un peu plus régulière, il y a des gens qui m'aident. Alors, moi, à terme, l'idée n'est pas de fonctionner sur le bénévolat. C'est pas du tout mon but, puisque moi, depuis le départ, c'est clairement une entreprise, hein. Mon but à terme, et c'est pour ça que le prochain palier financier que je souhaite atteindre, c'est 10 000 euros, je souhaite payer les gens qui, bien sûr, m'entourent et travailleront de manière professionnelle sur un certain nombre de dossiers qui sont indispensables pour la vie d'un podcast. Donc, bien entendu, que, encore une fois, MetaChoc dépend des dons plus que jamais.
Et vous faites également de l'édition de livres?
Alors, je ne fais pas de l'édition de livres, mais effectivement, je suis directrice de collection, à titre personnel, d'une collection qui est éditée chez La Route de la Soie, qui, en fait, me permet de transformer en livres les meilleures émissions de MetaChoc, donc, encore une fois, sous forme de dialogue, hein, puisque c'est le format classique de MetaChoc, avec des contenus inédits. Donc, on va avoir des encadrés qui permettent d'aller un peu plus loin. Donc, par exemple, une série en 6 épisodes sur l'anthroposophie, qui est une autre dérive sectaire qui commence à être bien connue. Et puis, là, j'ai également sorti un livre sur l'astrologie, avec un ancien astrologue déconverti qui explique comment il a voulu prouver que l'astrologie était scientifique, qu'elle était vraiment valable, que c'était une science dénigrée, et qu'en voulant la prouver, parce qu'il avait une formation scientifique, eh bien, en voulant déboulonner argument après argument de ses détracteurs, il a fini par comprendre que ce n'était pas une science, et il a abandonné cette pratique. Et j'ai également en projet de publier 2 nouveaux livres en début d'année. Un avec une chercheuse en sociologie des sciences qui s'appelle Odile Fillot, et avec qui j'ai fait une émission sur les différences psychologiques entre les hommes et les femmes qui seraient d'origine biologique. Donc, est-ce que c'est le cas ou pas? Et un autre livre avec Stéphanie Aubertin, qui est psychologue spécialiste du haut potentiel intellectuel, les fameux HPI ou zèbres. Donc, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux autour du haut potentiel intellectuel, de l'intelligence?
En tout cas, podcast plus livre, il y a une véritable identité graphique, visuelle au oui. Podcast Méta de Choc. Et ça, c'est aussi fondamental parce qu'un podcast, comme on le dit ici souvent à RFI, au sein de la cellule podcast de RFI, c'est 50% de web et 50% de son de radio. Pour ceux qui nous écoutent en podcast, faisons un très très rapide point boîte à outils. Vous enregistrez comment? Avec un micro, 2 micros, comment ça se passe?
Alors aujourd'hui, je ne suis pas très satisfaite de mon équipement. Il va falloir que je le change et quand j'aurai les moyens. J'ai 2 micros mains, pas très haut de gamme, on va dire. Et j'enregistre sur soit mon canapé, soit le canapé de mes invités quand je vais chez eux. Et donc, on essaie de trouver des endroits où il n'y a pas de réverbération. On essaye d'avoir un cadre calme pour avoir des conditions les plus proches possibles d'un studio. Mais on n'a pas encore atteint le niveau sonore de RFI.
Et pour monter, vous utilisez quoi?
Alors, je monte sur Avid Media Composer à l'heure actuelle, parce que j'ai une formation de monteuse. Je suis monteuse professionnelle, donc j'ai cet équipement-là. J'envisage de peut-être partir sur DaVinci, on va voir. Mais ça, pour le coup, c'est quelque chose que je maîtrise beaucoup plus et qui est beaucoup plus professionnel, on va dire. Et puis, le mixage se fait sur Pro Tools.
Et vous avez peut-être été approché par les plateformes pour votre podcast ? Spotify, Apple Podcasts, vous ont-ils contacté et proposé peut-être d'héberger chez eux votre podcast?
Non, ils ne m'ont pas proposé d'être un podcast
invité.
Original ou invité, ce que je refuserais de toute façon, parce qu'il y a de la pub forcément accompagnée de ça, donc ça ne me convient pas. D'autant plus, et je le précise parce que j'en ai l'occasion, que Spotify, à l'heure actuelle, ne souhaite pas, et c'est le cas également, mais je n'ai pas pu en parler avec eux d'Apple Podcast, mais en tout cas Spotify n'a toujours pas trouvé d'accord avec la SCAM pour rémunérer les auteurs qu'ils diffusent, donc à l'heure actuelle, gratuitement, tout en passant de la publicité à l'entrée et à la sortie des podcasts. Je trouve ça parfaitement scandaleux, et ça fait des années qu'ils sont en négociation avec la SCAM et qu'il n'y a toujours rien à l'heure actuelle. À côté de ça, YouTube vient juste de signer des accords avec la SCAM. Donc, même s'il ne se prive plus depuis cet été d'imposer de la publicité à l'entrée de tous les programmes, même quand on refuse la monétisation, ce que j'ai fait, au moins, il paye des droits d'auteur aux auteurs qui produisent des contenus qu'ils diffusent.
C'est bien de le préciser. Elisabeth Feiti, on vit une période troublée dans le monde en matière d'information. En France, actuellement, on voit que le débat public se polarise à l'approche d'un scrutin présidentiel. En début d'année, au mois de mars, vous co-signez dans Libération une tribune intitulée « La lutte contre la désinformation en ligne est en danger ». Vous avez l'impression, vous, en tant que podcasteuse, d'avoir une mission de lutte contre la désinformation ?
Alors, moi, je n'ai pas une mission de lutte contre la désinformation. Vraiment, comme je l'ai dit, mon but, c'est vraiment de sensibiliser sur la réflexion sur notre pensée. Et bien entendu que l'effet secondaire, on va dire, de la métacognition, c'est d'être plus alerte face à ce qu'on nous dit, face à la manière dont on nous lit, face à la manipulation mentale. Et on sait bien que les campagnes présidentielles usent et abusent de rhétorique et de tout un tas d'outils de manipulation de masse. Donc oui, mon espoir, c'est que chacun soit un peu plus éduqué, chacun soit un peu plus attentif à ce genre de choses. Maintenant, ce qui est sûr, c'est que à l'heure actuelle, les grandes plateformes comme YouTube, Facebook, etc., favorisent la diffusion de fausses informations. Et il est bien entendu que MetaChoc va contre ça en diffusant a priori le moins de bêtises possible. On essaye en tout cas, grâce à justement à l'intervention d'experts et de personnes qui ont des informations de pointe. Mais là où moi je suis inquiète, c'est par rapport au gouvernement, c'est par rapport à la manière dont nos dirigeants prennent les choses un peu à la légère, voire même surfent sur certaines incompréhensions, certains flous, et notamment en termes de dérives sectaires, de gestion des dérives sectaires, sujet qui m'est cher et que je connais bien pour l'avoir étudié, non pas que j'ai été dans une secte moi-même, mais je m'aperçois qu'il y a très peu de moyens accordés à la MIVILUDE, la mission gouvernementale de veille et de lutte contre les dérives sectaires, et que d'autre part, un certain nombre d'alertes ne sont absolument pas entendues par les gouvernements, et même, j'aurais tendance à dire, peut-être que ça les arrange, je ne sais pas. Il y a vraiment des choses très troublantes à ce niveau-là. Et c'est vrai que moi, je fais de l'information là-dessus et j'aimerais bien qu'elle soit relayée à un autre niveau. Parce qu'à notre niveau, à nous, et même au niveau des RFI, qu'est-ce qu'on est face à un pays qui n'a pas de réelles mesures, de réelles lois ou qui n'applique pas les lois qui pourraient être mises en œuvre.
Dans cette tribune, il était également question de donner davantage de moyens à l'éducation aux médias. Merci Elisabeth Feiti du podcast Méta de Choc, disponible sur toutes les plateformes. Plus d'infos sur metadechoc.fr. À bientôt.
À bientôt, merci beaucoup.
Comme toujours, on termine cette émission avec Mondoblog Audio. Mondoblog, c'est la plateforme des blogueuses et blogueurs francophones de RFI. Cette semaine, c'est le blogueur camerounais Ecclésiaste Dejuy qui, en écho à la journée internationale du sida, c'était mercredi, a rédigé une lettre ouverte d'un préservatif à la population camerounaise.
Bonjour les gens-ci. Je me présente, moi c'est Super Alex. Je suis en latex. J'ai entendu beaucoup de mauvaises choses sur votre pays-ci. Alors je viens en renfort. Par exemple, on m'a fait savoir que vos filles tombent enceintes à chaque saison de pluie. C'est vrai ça? On m'a aussi fait comprendre que vos adolescents sont devenus amis intimes avec les maladies sexuellement transmissibles. Et n'en parlons pas du sida, qui ne serait qu'un syndrome inventé pour décourager les amoureux. Les gars, moi je n'ai rien contre vous, hein. Chacun fait ce qu'il veut. Mais si je peux donner un petit coup de main, je suis seulement vexé parce que j'entends certaines légendes que mes détracteurs propagent et qui intoxiquent la jeunesse. Est-ce qu'on mange la banane avec la peau? Moi, je ne suis pas compliqué, je suis en latex. Tu m'enfiles et puis c'est tout. Je suis aussi disponible en version féminine. Dès que je suis là, toi le gars, tu n'as plus à t'inquiéter si la fille est en période ou pas. Et toi la go, tu n'as plus à te tourmenter sur l'état de santé de ton partenaire. Et je rappelle en passant que le sida n'est pas une maladie honteuse ou une maladie issue d'une malédiction. Le sida est simplement une infection virale parmi plusieurs autres. Moi, je m'appelle Super Alex. C'est vrai que je coûte un peu cher en pharmacie, mais quand même. Quand c'est la bière que vous voulez acheter, est-ce que vous vous posez même ce genre de questions? L'autre jour, j'entendais les gens fustiger ma présence, comme quoi ma fabrication est une industrie juteuse. Je ne refuse pas. Mais est-ce que je ne sauve pas alors des vies? Hein? Même si c'est le business qu'on fait avec mon nom et que ça te permet de régenter ton planning familial, où est le problème là-dedans? Ouais, que... La jeunesse camerounaise se perd. C'est pourquoi moi je viens en renfort. parce que j'ai aussi appris que vous regardez beaucoup les vidéos pornographiques, que vous organisez des rencontres de groupe avec WhatsApp qui se terminent on devine comment, et que vous achetez parfois le piment déjà sanitarisé. Je connais aussi la mentalité de vos adolescents qui tournent des sex tapes et qui postent ensuite les vidéos sur YouTube, sans parler des très jeunes filles qui sont déjà sexuellement très très actives dès le collège. Vrai, hein? Les Camerounais ont une sexualité devenue très incontrôlée qui n'aide pas à lutter convenablement contre le VIH-Sida. Combien de Camerounais peuvent être sexuellement fidèles envers un ou une seule partenaire? Aucun. Combien de Camerounais utilisent systématiquement le préservatif avec des inconnus? Très peu. Combien de Camerounais ont fait le test du VIH et combien ont déjà fait l'amour après avoir ingurgité des casiers et des casiers de bouteilles de bière? Hein? S'il vous plaît les gens-ci, utilisez-moi. Je sais que si je vous demande l'abstinence, vous allez sauf que m'envoyer au champ. Alors s'il vous plaît, pensez à moi, Alex de Super Latex. Même si je ne suis pas encore biodégradable. Et n'écoutez surtout pas ce que mes nombreux détracteurs vous racontent.
Mondoblog.org.
C'était le mondoblogueur camerounais Ecclésiaste de Djuy. Pour mieux connaître la société camerounaise et sa jeunesse, allez lire le blog d'Ecclésiaste achouka.mondoblog.org. Mondoblog audio qui était préparé comme chaque semaine par Camille Deloche. C'est la fin de cette émission réalisée par Simon De Creuse. Si vous aimez l'Atelier des médias, je vous rappelle que vous pouvez l'écouter en podcast chaque samedi avant même qu'il soit diffusé sur RFI. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous sur Apple Podcast, Spotify, Deezer, Podcast Addict ou encore l'appli Radio France. Pour nous contacter, un mail, l'adresse c'est atelier@rfi.fr. Une mention sur les réseaux sociaux pourra aussi fonctionner. Je m'appelle Steven Jambeau et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau numéro de l'Atelier des médias.